14-18. Première partie, le départ vers le front. Une émission conçue par Frédéric et Dominique Gauthier et réalisée par Alain David. Ordre de mobilisation générale, par décret du Président de la République. La mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation. Sont visés par le présent ordre tous les hommes non présents sous les drapeaux et appartenant à l'armée de terre, y compris les troupes coloniales et les hommes des services auxiliaires, à l'armée de mer, y compris les inscrits maritimes et les armuriers de la marine.
Cette guerre de 14-18, c'est la première guerre de citoyens. C'est-à-dire que les soldats étaient des citoyens, c'était pas du tout. C'était la totalité du corps civique de chacun des pays qui, pour la première fois, a été confronté, mis en situation de faire la guerre. C'était pas des mercenaires, bien sûr, comme dans des guerres passées. C'était pas non plus les jeunes. Les guerres napoléoniennes, c'était des guerres faites par des jeunes tirés au sort. Et là, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui se retrouve à faire la guerre.
C'était des jeunes paysans, souvent. Beaucoup analphabètes encore, il ne fallait pas se leurrer. Ils étaient tous destinés à l'infanterie, c'est-à-dire la piétaille. C'est cela. Alors c'est vrai que la France était rurale, mais ces jeunes transportés de nos campagnes, comme ça, et brutalement transportés dans ce monde-là, il y avait vraiment de quoi être déboussolé. Surtout que les batailles ont été rudes tout de suite, hein.
À la terrasse d'un café du centre, un orchestre attaque la Marseillaise. Tout le monde l'entend debout et se découvre, sauf un petit homme chétif, de mise modeste, au visage triste sous un chapeau de paille, qui se tient seul dans un coin. Un assistant l'aperçoit, se précipite sur lui, et d'un revers de main fait voler le chapeau. L'homme pâlit, hausse les épaules et riposte. « Bravo, courageux citoyen !» L'autre le somme de se lever, il refuse. Des passants s'approchent, les entourent. L'agresseur continue. « Vous insultez le pays, je ne le supporterai pas !» Le petit homme, très blanc maintenant, mais obstiné, répond. « Je trouve bien que vous offensez la raison et je ne dis rien. Je suis un homme libre et je refuse de saluer la guerre. » Une voix crie. « Cassez-lui la gueule à ce lâche !» Une bousculade se produit de l'arrière, des cannes se lèvent, des tables sont renversées, des verres brisés. L'attroupement en un instant devient énorme. On entend des bruits de coups sur un corps, des cris de haine et de douleur. Enfin, le gérant accourt, sa serviette sous le bras et écarte les gens. Le petit homme, tombé de sa chaise, est étendu à travers les crachats et les bouts de cigarettes des consommateurs. Ces individus sont capables de tout. Heureusement qu'on l'a désarmé. Il était armé ? Il a menacé les gens de son revolver. Aussi, nous sommes trop bons en France. Les socialistes font le jeu de l'Allemagne. Pas de pitié pour ces cocos-là. Les prétendus pacifistes sont des coquins. Ça ne se passera pas comme en 70 cette fois. Pour fêter cette victoire, on réclame à nouveau la Marseillaise. On l'écoute en regardant le petit homme sanglant et souillé qui geint faiblement. Je remarque près de moi une femme pâle et belle qui murmure à son compagnon « Ce spectacle est horrible. Ce pauvre homme a eu du courage. » Il lui répond « Un courage d'idiot. On ne s'avise pas de résister à l'opinion publique. » Gabriel Chevalier, La peur.
Je suis parti avec ma classe pour venir ici faire mes 3 ans. Mon cousin me dit, il y a le fils Fidas qui va dans le même régiment. Tu devrais faire ta connaissance. J'ai fait comme avait dit le cousin, et depuis que je sers la France, Vida c'est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun une permission. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants devant les monuments. Dis donc Bidas, viens, regarde un peu là. Oh. Dans les rues, on se promène, ça nous fait passer le temps. Là.
4 août 1914, parti le troisième jour de la mobilisation au 253e régiment d'infanterie de réserve à Perpignan, affecté dans une section de mitrailleuses comme télétransmetteur. 15 août, départ pour le front, embarqué à Perpignan, arrivé à la gare de Belfort le 16 vers minuit. 16 août, débarquement à Belfort, la pluie tombée à verse. Après une dizaine de kilomètres dans la direction de la frontière, sous la pluie battante, le bataillon est cantonné à Fontenelle, petit village près de la frontière. 17 août 1914, repos. 18 août, départ à 5 heures du matin, traversons la frontière à Montré-Château, Montré-le-Vieux. 19 août, départ du régiment à 4 heures dans la direction de Mulhouse, en arrivant au village de Ichlenden. C'est là que nous recevons le baptême du feu. Les Allemands postés dans les bois nous criblent de balles, fusils, mitraillettes et canons tirent de tous côtés. La bataille dure toute la journée. Le régiment monte 3 fois à l'assaut. Dans la soirée, battons en retraite. Les morts et les blessés gisaient de tous côtés. Souvenirs et mémoires de la Grande Guerre de Célestin Germain Rivière, né le 22 décembre 1885 à Pradinas en Aveyron, décédé le 27 avril 1979 à La Salvetat-Perales.
Notre départ de Narbonne était fixé pour le mercredi 4 novembre. Je faisais partie d'un détachement d'une cinquantaine d'hommes, alors renforcer le 280e régiment d'infanterie qui opérait du côté de Béthune et de la Bassée dans le nord de la France. Triste journée que celle-là. Je vivrai 1000 ans que je n'en oublierai pas les moindres souvenirs, les plus petits détails. Ma femme avait tenu à venir à Narbonne et rester avec moi jusqu'à la dernière minute, emmenant avec elle mon plus jeune fils de 6 ans, mon cher petit André. Par commisération, on avait toléré que les femmes dont les maris allaient partir restassent dans la cour jusqu'au dernier moment. Voici l'heure fatale. Le clairon sonne, le rassemblement, l'appel. J'embrasse ceux que j'aime une dernière fois, je les presse sur mon cœur et j'ordonne à mon épouse de partir, de disparaître, de ne pas chercher à me revoir à la gare. Cela m'ôterait, lui dis-je, le peu de courage qui me reste. Mais il fallait réagir, on ne pouvait pas traverser la ville, les yeux pleins de larmes comme des femmelettes. On fit donc tous assez bonne contenance. Manival nous fait escorter par quelques clairons et tambours, dont le tapage attira une grande foule sur notre passage. Oh, ça n'était plus la foule enthousiaste en délire assistant au premier départ. On ne nous jetait pas de fleurs, on ne nous envoyait pas de baisers. On ne nous assourdissait pas les oreilles de hurrah et de bravo. C'est que ce n'était plus la guerre courte, fraîche et joyeuse annoncée au début par les journaux menteurs. La France était envahie, on était au seuil de l'hiver. La guerre s'annonçait longue et l'issue douteuse. Les sentiments de la foule avaient changé. Sur beaucoup de figures, on voyait la pitié. Des femmes s'essuyaient les yeux. Tout le monde nous regardait grave et silencieux. Comme devant un cortège de condamnés à mort, beaucoup se découvraient.
Ben non, mais le sens de cette guerre est très difficile à trouver. Et en fait, c'est bien le souci, c'est que... apparemment, les Européens, tous, hein, parce que c'est pas uniquement français, sont partis en guerre pour défendre quelque chose qui leur tenait vraiment viscéralement à cœur. C'était, on peut dire, leur civilisation pour les Français, leur culture pour les Allemands. Alors en fait, c'était mondial dès le début, enfin européen dès le début, puisque y avait, disons, deux blocs de puissance européenne qui étaient en cause. D'un côté, ce qu'on appelle les alliés, c'est le camp français, c'est la France, le Royaume-Uni, la Russie. Et de l'autre côté, c'est le camp qu'on appelle les puissances centrales, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Mais bientôt, et ça c'est encore un phénomène difficile à comprendre et extraordinaire, bien d'autres pays se sont agglomérés à ce conflit, comme s'il fallait en être. C'est vraiment quelque chose de difficile à comprendre. Alors, il y a eu l'Italie, il y avait les Balkans qui étaient déjà impliqués puisque la Yougoslavie était à l'origine de la guerre. Et finalement, dès 1914, il y a plusieurs fronts. Il y a le front français, il y a le front russe, il y a un front dans la mer, parce qu'il y a eu une guerre sous-marine aussi, eh oui. Il y a eu le front dans les Balkans, en Grèce. L'année suivante, il y a eu l'ouverture du front italien dans les Alpes. Il y a eu également un front dans l'Empire ottoman. C'est là que Laurence d'Arabie s'est illustré. J'en oublie peut-être. Il ne faut pas oublier que le Japon aussi est en guerre et attaque les colonies allemandes. Donc déjà, on peut dire dès 1916, avant l'arrivée des Américains, c'est une guerre mondiale, sans parler évidemment de la mobilisation des malheureuses troupes d'outre-mer, aussi bien celles de l'Empire français que de l'Empire britannique. Et même les Allemands ont aussi mobilisé des troupes outre-mer.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu à la guerre, à la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour, elle n'aime que le son du tambour.
Poèmes à Lou. Guillaume Apollinaire. Ma Lou, je coucherai ce soir dans les tranchées qui près de nos canons ont été piochées. C'est à 12 kilomètres d'ici que sont ces trous où, dans mon manteau couleur d'horizon, je descendrai, tandis qu'éclatent les marmites pour y vivre parmi nos soldats troglodytes. Le train s'arrêtait à Mourmelon-le-Petit. Je suis arrivée gaie, comme j'étais partie. Nous irons tout à l'heure à notre batterie. En ce moment, je suis parmi l'infanterie. Il siffle des obus dans le ciel gris du nord. Personne, cependant, n'envisage la mort. Cette boue est atroce au chemin détrempé. Les yeux des fantassins ont des lueurs navrantes. Nous n'irons plus au bois. Les lauriers sont coupés. Les amants vont mourir. Aimantes, les amantes.
C'était 14-18. Première partie, le départ vers le front. Avec les interventions d'Isabelle Imbert et de Denis Trouche.